Lou.
Dans ce journal, nous vous parlerons de ce nouvel épisode concernant la concession Tahiti-Fa dont l'appel d'offres va être relancé. Et puis nous vous parlerons de ces deux navigateurs russes avant de vous présenter deux nouvelles misses. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
On commence par cette annonce de Paris.
Cette annonce très attendue concernant la concession de Tahiti-Fa, dont l'appel d'offres va bien être relancé. Le dossier est géré par l'État, vous le savez, il est hautement stratégique, puisque le futur gestionnaire doit rénover de fond en comble la porte d'entrée du Fénoua. Mais la procédure semble interminable. Elle avait commencé en 2010 avec une attribution sans consultation à Aegis, annulée 7 ans plus tard par la justice. Il y avait eu le nouvel appel d'offres en 2019. La nouvelle attribution à Aegis, une seconde fois annulée, la désignation l'année dernière de Vinci, arrivée second de l'appel d'offres et qui avait été déclarée hors course au tribunal avant d'être remis en selle par le Conseil d'État. C'était le 1er juin dernier. Bref, voilà 13 ans déjà que l'aéroport cherche un gestionnaire stable et ça pourrait durer encore un peu, Charlie René.
Et oui, car la récente décision du Conseil d'État n'a pas marqué la fin de la bataille pour Tahiti-Fa, loin de là même. Certes, en annulant le référé d'annulation, Vinci Airports redevenait le vainqueur logique du dernier appel d'offres. Mais la CCISM et son groupement TIA avait encore des voies de recours et surtout beaucoup d'arguments pour faire tomber le marché. Un référé est d'ailleurs déjà sur le bureau du tribunal, il ne devrait pas être étudié et pour cause. Paris a décidé d'arrêter les frais. Cette nuit, le ministère des Transports a annoncé qu'il déclarait l'appel d'offres de 2019 infructueux, mettant fin à cette longue bataille judiciaire. Comme le demandait la CCISM mais aussi Aegis depuis plus récemment, un nouvel appel d'offres va donc être lancé par l'État et cette fois, promet le gouvernement central, le cahier des charges sera mieux ficelé, Valdemar, et surtout, le pays sera mieux consulté.
Le pays qui restera actionnaire à 49% de la société de gestion de l'aéroport, comme il est aujourd'hui au sein d'ADT, le reste des parts, elles appartiennent à la Caisse des dépôts et sa filiale Aegis qui reste aux manettes de Tahiti-Fa jusqu'à la désignation d'un nouveau concessionnaire. Et d'ici là, il y a du travail, Charlie.
Et oui, du travail du côté de l'État qui a aussi promis de revoir à la hausse les ambitions environnementales du cahier des charges. Ça faisait partie des demandes de Muéthei Brotherson à Paris la semaine dernière. Mais c'est aussi Aegis qui va avoir du boulot puisque le concessionnaire avait déjà pointé que certains chantiers lourd ne pouvait plus attendre à Tahiti-Fa. L'État ce matin promet le déblocage de 1,1 milliard de francs et peut-être davantage en fonction des besoins urgents. Côté calendrier, en revanche, peu d'indications. Beaucoup chez les connaisseurs du dossier espèrent que Paris a déjà avancé sur la mise à jour de l'appel d'offres et du cahier des charges et pourra le lancer dans le semestre à venir. Un concessionnaire serait alors désigné courant 2024 et ce sera pour 40 ans, Valdemar.
Merci Charlie René. À noter tout de même que le futur appel d'offres pourra lui aussi faire l'objet de recours. Le dossier de la concession est donc loin d'être refermé.
Aérien toujours avec ses pannes en série en Calédonie.
Deux des trois avions de la compagnie calédonienne Air Calin ont connu des avaries ces derniers jours. D'après France Télévisions, une dizaine de rotations ont déjà été annulées et pas moins de 2700 passagers seraient bloqués à Nouméa, Tokyo, Singapour ou Sydney. Air Calin espère une amélioration de la situation ce week-end, mais la rotation Nouméa-Papeete sera quoi qu'il en soit décalée. Le Nouméa-Tahiti-Fa, qui devait atterrir ce vendredi à 19h15, n'arrivera que samedi à 18h25. Redécollage prévu le même jour à 19h50 pour une arrivée prévue en Nouvelle-Calédonie dimanche à 23h05.
On va parler des péripéties de deux navigateurs russes.
Ils s'appellent Evgeny Kovalevski et Stanislav Bereskin. Ils sont navigateurs et effectuent un drôle de tour du monde à bord d'un catamaran gonflable avec un équipement rudimentaire. En escale au Fénoua, ils proposent une réunion à la population ce soir à 18h. C'est à l'école de voile de Taravao. Et des histoires, ils en ont à raconter. Ils sont partis en juillet 2021 depuis Saint-Pétersbourg sur les traces des premières expéditions russes. À l'époque, ils voguent sur un trimaran et traversent la mer Baltique, la mer du Nord, l'océan Atlantique, puis contournent l'Amérique du Sud par le Cap Horn. Les deux marins mettent ensuite le Cap au Nord jusqu'au Chili. C'est de là qu'ils entament leur traversée du Pacifique en février 2023. C'est alors le début des galères. Mi-mars, ils cassent leur boîtier de gouvernail au cours d'une tempête et sont contraints de passer un appel de détresse. Secourus en mer, ils parviennent à rejoindre l'île de Pâques, mais leur trimaran étant irrécupérable, ils le remplacent par un catamaran, gonflable lui aussi, pour continuer la traversée du Pacifique. Les malheurs n'arrivant jamais seuls, les pépins s'enchaînent d'abord avec la casse de leur palan de moteur, puis avec une attaque de requin sur un flotteur. Arrivés tant bien que mal à Taravao début juin, ils sont fermement décidés à poursuivre leur périple et leur motivation, ils la puisent dans leurs objectifs, pousser les jeunes à apprendre la géographie, encourager la coopération scientifique et scolaire, mais aussi battre des records du monde. Écoutez.
D'abord celui du premier bateau gonflable à contourner l'Amérique du Sud. Le second record, c'est d'être les premiers à boucler un tour du monde sur ce type d'embarcation. Et le troisième, celui du voyage le plus long, environ 35 000 nautiques. Personne n'a jamais tenté un tel voyage sur un bateau gonflable.
Et ils reprendront la mer fin juin, destination les Samoa, Fidji, la Nouvelle-Calédonie puis l'Australie. Ils proposent d'ailleurs deux places sur leur catamaran à quiconque souhaite les accompagner vers ces destinations. Leur retour en Russie via l'océan Indien, le canal de Suez et la mer du Nord est prévu mi-2024.
En mer toujours, qui succédera à Shelva ?
L'équipage a remporté les trois dernières éditions de la Vodafone Channel Race. La course revient demain avec une nouveauté, un parcours de 34 km réservé aux femmes. Départ à 9h de la plage de Taonnet, direction Punaouia et retour par le lagon pour rejoindre l'arrivée. Les V6 masculins partiront du même endroit à la même heure pour rejoindre Moréa, puis revenir sur Punaouia avant de rejoindre l'arrivée à Taonnet par le lagon, un parcours de 60 km que les rameurs devraient faire en 5 heures selon l'estimation des organisateurs.
Du sport toujours avec une course en faveur des femmes.
Oui, se passer le témoin contre la violence faite aux femmes, c'est l'idée de la Nuit des Relais, une nouvelle manifestation sportive proposée par le Conseil des femmes de Polynésie. Rendez-vous dans la soirée du 29 juillet au parc Paofei pour 2h40 de course sur un parcours de 1,3 km. Le but, c'est de faire le plus de tours possible et au passage de ramener des fonds pour le foyer pour OTAO en pleine extension.
Une campagne de prévention contre le cancer du col de l'utérus.
C'est l'objectif de Juin Vert, un programme de l'Institut du Cancer. Pour l'occasion, plusieurs opérations de sensibilisation sont menées depuis le début du mois. Ce vendredi, l'ICPF appelait la population à porter du vert. L'Institut prévoit ensuite une journée de sensibilisation. Ce sera le 24 juin prochain, de 9h à 15h, au parc Teaputa de Taravao. Un rendez-vous que les organisateurs veulent convivial et populaire, avec sur la place la possibilité de s'informer sur des sujets de santé. Des ateliers récréatifs sont aussi programmé, comme nous explique la directrice de l'ICPF, Teanini Temata Otoa, au micro de Vaitiare Gobré.
L'idée là de cette campagne, c'est de leur rappeler, n'oublie pas ton frottis, n'oublie pas d'aller voir ton médecin. L'idée, c'est de parler de ce cancer, mais en effet, comme c'est pas un sujet qui est forcément très, très agréable à traiter, on essaye aussi d'en créer un moment convivial entre femmes, entre familles, pour parler de ça, mais aussi parler d'autre chose.
Causé par les virus du papillomavirus humain ou HPV, le cancer du col de l'utérus touche entre 15 et 20 femmes par an au Fénois. Transmissible lors de rapports sexuels, le virus sera rencontré par 80% des femmes au cours de leur vie. Dans la majorité des cas, les patientes guérissent spontanément. Pour les autres, chez qui le virus va persister, il pourra se transformer en cancer après plusieurs années. Aujourd'hui, le dépistage par frottis reste le seul moyen de détecter d'éventuelles lésions bénignes au niveau du col de l'utérus, qui pourront ainsi être traitées et surveillées. Un dépistage pris en charge à 100% tous les 3 ans pour les femmes de 25 à 64 ans, rappelle l'ICPF.
8 polynésiennes distinguées.
Et comme chaque année, l'Union des femmes francophones d'Océanie a récompensé des femmes d'exception du Fénois. Elles se démarquent par leur engagement, leur réussite, leur rayonnement et leurs initiatives dans des domaines divers, ce qui leur permet d'obtenir le titre de Poerava. Cette promotion 2023 célèbre donc Noéline Parker, la présidente du comité organisateur des Jeux du Pacifique, Élodie Lancin, la directrice de l'agence de location Avis, Victoire Laurent, la directrice de la division études et climatologie au sein de la station Météo France Tahiti, Célestine Ichua Vaite, autrice de la fameuse trilogie L'arbre à pain, frangipanier et tiare, ou encore Stella Taaromea, rédactrice en chef de Polynésie la Première. Des actrices du monde associatif se démarquent également, comme Aline Flore, la présidente du Conseil des femmes, ou l'ancienne enseignante Henriette Camia, aveugle et porte-voix des personnes handicapées, ou la présidente de la Ligue de lutte contre le cancer, Natacha Helm. Ces 8 femmes ont chacune été honorées ce matin. Elles ont reçu un médaillon lors d'une cérémonie à Taraoï.
Un clap de fin pour cette semaine tournée vers les Miss.
Oui, depuis lundi, les candidates au titre de Miss Tahiti se sont succédées sur nos plateaux. Deux dernières jeunes femmes ont bouclé la boucle ce matin, à commencer par la jeune Inanui Salmon, 18 ans, tout juste 1m70, la taille minimum pour concourir à Miss France. Ce concours, c'est toute sa vie. Elle y pense depuis qu'elle a 6 ans et connaît déjà les rouages d'une élection, puisqu'elle est la Miss Harué 2023. On l'écoute.
C'est un rêve d'enfant que j'ai depuis l'année de Hinaraïne de Longjo, depuis qu'elle a été élue Miss Tahiti, c'est-à-dire depuis 2012. C'est quelque chose que c'est un événement que je suis depuis très longtemps. Et c'est également un moyen pour moi de relever un nouveau challenge parce que je suis quelqu'un qui aime relever des challenges, des défis. Dès qu'une porte se ferme pour moi, une autre s'ouvre. Du coup, dès qu'une aventure prend fin, une autre commence.
Voilà, Inanui Salmon voit dans ce concours l'opportunité de se faire remarquer pour son avenir, mais aussi de prendre confiance en elle. C'est également un bon moyen de se familiariser avec les médias. Ça tombe bien puisqu'elle souhaite devenir journaliste, un métier qui, dit-elle, correspond à sa capacité à aller vers les gens et à écouter. Cette année, elle s'est lancée dans une licence de sciences de l'information et de la communication à l'ICEP. Ce matin, la jeune étudiante était accompagnée d'une candidate qui vient, à l'inverse, de finir son cursus universitaire. Il s'agit de la candidate numéro 10, Vaiterupe Munier, 24 ans, récemment diplômée en psychologie. La recherche d'emploi, ce sera pour l'après-concours, car l'élection de Miss Tahiti occupe déjà une bonne partie de ses journées. Petite particularité, elle est la seule du concours à être née en métropole, où elle a vécu 6 ans, tout en restant bercée par la culture polynésienne. Contrairement à sa camarade ce matin, le concours de Miss Tahiti n'a jamais été une évidence.
Miss Tahiti, c'était pas un rêve d'enfant. C'est vraiment venu là, à partir du mois de janvier-février. On m'a encouragé à me présenter. Je l'ai pas pris sérieusement au début, et après y avoir réfléchi, je me suis dit ok, je vais me lancer, mais je vais me lancer avant tout pour moi, pas pour les autres. Personne m'a mis la pression, personne m'a forcé. C'était vraiment une décision réfléchie. Et je me suis dit aussi de me lancer à 24 ans, c'est mieux parce que j'ai beaucoup plus de maturité. À mes 18 ans, franchement, j'aurais pas pu tenter ce genre d'aventure. J'avais pas du tout confiance en moi. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est, enfin, si c'est déjà mieux qu'avant, et ça aide beaucoup aussi dans ce genre d'aventure d'avoir de l'assurance.
Vous avez entendu Vaiterupe Munier, la candidate numéro 10. On le rappelle, la soirée d'élection se rapproche à grands pas. C'est dans une semaine dans les jardins de la mairie de Papeete. Il reste des places sur ticketpacifique.pf. Et pour retrouver les passages des candidates sur nos plateaux, les interviews sont disponibles en vidéo sur les pages Facebook de Radio 1 et de Tierlé FM. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi à toutes et à tous. Le retour de l'actualité locale, c'est à 16h.
Merci beaucoup, Valdez.